Voilà, on va lire quelques versets dans le psaume 18. Le psaume 18. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Verset 14. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui m'ont conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. L'Éternel exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Verset 49. Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité, pour toujours. Amen. Voilà un psaume dans lequel nous avons glané quelques versets. Bien sûr que la totalité du psaume est intéressante, mais malgré tout, eh bien, nous allons revenir sur ces quelques versets que j'ai lus. Quand replaçons toute chose dans son contexte, plantons un petit peu le décor, si vous me le permettez. Quand David compose ce psaume, il le compose pour, eh bien, dire à Dieu, tu es celui qui m'a secouru. Parce que David a fait monter vers Dieu, et c'était pas la première fois, un appel dans un temps difficile, un appel à Dieu dans un temps difficile, compliqué, de lutte, d'opposition, un temps de détresse. Mais l'Éternel nous dit le contexte, et vous avez l'histoire dans 2 Samuel chapitre 22, l'Éternel va en effet délivrer David de la main de tous ses ennemis, vous avez cela parfois dans vos Bibles en titre, donc, et de la main de Saül. Alléluia. Voilà le contexte. le décor où David a crié vers Dieu et en même temps a été secouru par l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous pouvons transposer le témoignage de Paul par rapport à notre vie spirituelle, de David par rapport à notre vie spirituelle. Nous pouvons transposer les leçons qui se dégagent de ce psaume 18 dans le contexte de notre alliance, celle qui est en Jésus-Christ, nouvelle alliance, nouvelle dispensation. Mais je précise, parce qu'il faut être dans le bon équilibre, que si les adversaires et les ennemis de David sont des hommes, d'accord ? Ça, c'est le contexte de David. Et quand nous transposons cette leçon par rapport à la Nouvelle Alliance, nos ennemis dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas des hommes. C'est tout simple. Ce n'est pas le frère ou la sœur qui est assis à côté de moi, ça c'est pas normal d'ailleurs. Quand on considère son frère, sa sœur, le pasteur comme un ennemi. Non. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit les épîtres de Paul et des autres apôtres, quand on regarde ce que Jésus a dit, notre ennemi, notre adversaire, ce n'est pas l'homme. En définitive, en ce qui nous concerne, c'est le péché. C'est Satan, et c'est les esprits mauvais, ainsi que le monde et son état d'esprit. Oui, oui. Le monde et son état d'esprit. Parce que l'état d'esprit du monde, ce n'est pas l'état d'esprit de Dieu. Il y a un fossé. Et le texte en donne lui-même le thème. Je l'ai souligné il y a quelques instants, je le rappelle. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de ce roi, premier roi d'Israël, Saül. Alors ce contenu que nous avons là devant les yeux, ce psaume qui est assez long, il est extrêmement dense en enseignement, en leçons spirituelles, et je vais me limiter ce matin à quelques points forts, à quelques idées maîtresses qui peuvent nous aider à bien comprendre certaines choses. Tout d'abord, pour comprendre le fait que, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs quand nous demeurons en Christ. Attention, si on ouvre des brèches en s'éloignant du Seigneur avec des pensées, des paroles, des positions qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, c'est sûr qu'on va ouvrir, je le disais, des brèches à l'adversaire. Donc, là, on est plus dans la défaite que dans la victoire. Par contre, si je demeure en Christ, je demeure dans sa parole, je demeure attaché à lui, il est un fait que je suis plus que vainqueur. Moi, quand j'entends ça, quand j'entends une telle prédication, qu'on me dit « je suis plus que vainqueur », je dis « Alléluia ». Et il y a des prédicateurs qui vont passer ici. Quand ils vont dire des vérités, vous allez m'entendre dire « Amen ». Ça veut dire « oui, je suis d'accord ». « Alléluia, gloire à Dieu ». Je suis pas là sur ma chaise. Non. Ça me touche, ça me bouleverse, ça me percute, ça me rappelle des vérités. Et je dis Alléluia. Voyez-vous, pour nous rappeler de telles vérités, la parole de Dieu ne cesse de les souligner, le Saint-Esprit ne cesse de nous rappeler, oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça viendra, hein. Si je reste 10 ans, au bout de 10 ans, je vais y arriver. Je suis convaincu. Et normalement, tous les chrétiens devraient être convaincus. Il y a des gens dans la politique qui sont tellement convaincus qu'ils font passer leur message. En fait, ça apporte pas grand-chose. Par contre, quand on est convaincu des choses de Dieu, ça apporte. Parce que ça vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet, accompli ses desseins, exécuté sa volonté. Donc, ce matin, mes frères et sœurs, quand je dis que nous sommes plus que vainqueurs, je ne suis pas en train de dire ça pour faire passer le temps, et puis qu'on arrive vite à midi, qu'on rentre à la maison. Sinon, je perds mon temps. Mais quand je dis cela de la part de Dieu et conduit par le Saint-Esprit, c'est pour vous amener à vous positionner et à dire ce matin, oui Seigneur, merci de me le rappeler, c'est vrai, c'est un fait, et je m'en réjouis, sois béni. Alléluia. Et réalisant cela, ça m'amène à une démarche, c'est de comprendre mieux la personnalité de Dieu, de mon Père, de mon Seigneur. David va, dans ce psaume, dans bien d'autres, il va nommer Dieu par différents termes. Et chacun de ces termes qui parle de Dieu, de notre Dieu, correspond également à un ou plusieurs attributs divins, attributs à Dieu, à Christ, au Saint-Esprit, les trois sont Dieu, et qui constituent autant de traits de la personnalité de Dieu qui est parfaite, qui est excellente, qui est merveilleuse, qui est incomparable, bref, c'est-à-dire complète. Il va dire l'Éternel, Dieu, rocher, attribué à Dieu, hein, forteresse, libérateur, abri, bouclier, le rocher de notre salut, le Très-Haut, l'appui, la lumière. C'est dans le psaume 18 tout cela. Rien qu'avec tous ces points concernant les attributs de Dieu, la personnalité de Dieu, je prêche pendant un an. Parce que derrière tout cela, il y a une richesse extraordinaire qui nous amène à mieux comprendre qui j'ai accepté comme Sauveur et Seigneur. Je n'ai pas accepté une idée, sinon je suis perdu. Je n'ai pas accepté un Dieu parmi d'autres dieux, sinon je suis perdu. Je n'ai pas accepté quelqu'un de bizarre, non, j'ai accepté un Dieu merveilleux qui se présente à nous, qui se révèle à nous, qui nous montre qui il est. Des noms riches, des attributs riches de signification. Et ces termes suggèrent les attributs de Dieu comme ainsi, c'est-à-dire que Dieu est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Le monde change, les hommes changent, les idées des hommes changent. Parfois des chrétiens changent, mais pas toujours en bien. Alors qu'on doit progresser. On se réunit non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. On doit se rassembler, c'est important, la communion fraternelle. Là aussi, cette brave sœur ne comprenait pas. Elle dit, oh, vous parlez de la communion fraternelle et la communion avec Dieu. Mais c'est lié, hein. Je ne peux pas vivre une communion avec Dieu si je ne vis pas ma communion avec mes frères et sœurs. C'est un non-sens, c'est illogique. Ce n'est pas ce que Dieu me demande dans sa parole, il est de persévérer dans la communion fraternelle et de persévérer également dans ma communion avec lui. Les deux sont liés. Dieu est immuable. Il existe par lui-même. Il est donc éternel, inébranlable, il est fort, il est fiable. C'est important la fiabilité. Il est fiable. Il est omnipotent, ça veut dire il peut tout. Il est omniprésent, il est ici et il est dans bien d'autres endroits ce matin où le peuple de Dieu est rassemblé, sur toute la surface de la terre. Même là où il fait nuit, il y a des chrétiens qui sont debout en train de prier. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il est souverain, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est saint, il est sage, il est juste, etc. Mais également dans ce psaume 18, il y a, toujours par rapport à la personnalité de Dieu qu'il faut connaître, il y a des verbes qui sont assez suggestifs. Sauver. Entendre, c'est Dieu, hein? S'irriter, oui, Dieu peut s'irriter. On peut attrister le Saint-Esprit, attrister, s'irriter. Parler, Dieu parle. Aimer, Dieu aime. Étendre la main, saisir, retirer, délivrer, conduire, donner, élever, accorder, faire miséricorde. Tout cela est dans le psaume 18. Et ça nous parle de notre Dieu. Et ces verbes, que je viens ici de souligner, dévoile un Dieu qui agit en faveur de son enfant, en faveur de l'homme qui se confie, de la femme qui se confie en lui. Ça dévoile ce Dieu qui est doué de sentiments et de sensibilité. Alléluia. Oui, Dieu est esprit, mais ce n'est pas parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit que Dieu n'a pas de sentiments. Il se révèle comme un père. Il se révèle en Jésus. Quand on regarde le ministère de Jésus, que de sensibilité, que de sentiments nobles, que de miséricorde, que de grâce, que de bienfaits, que de salut, que de patience. Et je pourrais continuer. Y a-t-il un autre Dieu présenté par les hommes, par rapport à la philosophie des hommes, qui peut arriver à la cheville du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui dont je vous prêche ce matin, celui que je loue, celui que j'adore, que vous louez, que vous adorez? Y a-t-il un Dieu sur la terre présenté par les hommes, les religions des hommes, qui peut arriver à la cheville du Dieu d'Israël? Personne. Aucun. En dehors de Dieu, c'est des chimères. En dehors de ce Dieu créateur des cieux et de la terre, il n'y a rien, c'est le vide. Si, il y en a un qui se cache derrière, c'est le diable. Pour détourner les cœurs de Dieu, de la réalité, de la puissance de Dieu. Il est ma force qui me sauve, dit David. Êtes-vous fatigué ? Êtes-vous languissant? Si c'est le cas ce matin, il est l'aide dont vous avez besoin. C'est incroyable de voir tant d'hommes et de femmes aujourd'hui, des jeunes, des moins jeunes, et particulièrement notre jeunesse. Hein. C'est incroyable. Elle est dans un état lamentable. De les voir chercher de l'aide là où il ne faut pas. La main tendue de Dieu est une réalité en Jésus-Christ. Vous savez, la miséricorde, on l'a traduit ainsi, la miséricorde c'est le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, ça implique beaucoup de choses, mais la miséricorde, moi j'aime la traduire ainsi, c'est une corde tendue sur la misère des hommes. Il y a quelques années de cela, quand j'allais chez mes beaux-parents, ma belle-mère était abonnée à une revue, je vous dirai pas laquelle. Et dans cette revue, il y avait des témoignages de gens qui étaient en détresse et qui demandaient du secours à d'autres. Avez-vous vécu cela? Avez-vous connu ce problème de santé? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous me donner un témoignage qui m'encouragera? On retrouve un peu ça dans beaucoup de revues aujourd'hui d'ailleurs. Et le titre de cette page. Le titre qui était donné par ce magazine à cette page, c'était celui-ci, Une main tendue. Et quand j'ai lu le titre, et je lisais en même temps les demandes, les souffrances, vous savez, il y en a, hein, j'ai dit, mais c'est tout à fait ce que Jésus fait. Là, en définitive, c'est une main tendue de monsieur vers un autre monsieur, d'une dame vers une autre dame, d'un couple vers un autre couple, que sais-je. Mais là, ce matin, je vous parle pas d'une main tendue d'un homme. Ça peut peut-être aider à un moment donné. Ça peut effectivement apporter quelque chose, un réconfort. Je n'en doute pas. Mais ça, c'est passager. Par contre, la main du Seigneur qui est tendue. Mes frères et sœurs, c'est une main de qualité, c'est une main qui est forte, c'est une main qui est puissante, c'est une main qui n'a pas d'incapacité, c'est une main qui est large, c'est une main pleine d'amour. D'ailleurs, elle est marquée par les clous qui l'ont percée à cause de nos péchés, de nos fautes et de notre folie. Je t'ai gravé, dit la Bible, dans le creux de mes mains. Vous avez besoin d'aide ? Crier vers le Seigneur. La Bible est chargée d'exemples à ce sujet, et j'en prendrai un sans m'y étendre, c'est tout un message, mais c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 1er et le chapitre 2. Il est question de Anne, Et cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Et son époux, Elkana, une pratique courante à l'époque, bien que Dieu n'approuvait pas, hein, mais ça se faisait. Elkana avait pris une autre femme pour avoir une descendance. Et Pénina donc avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc je passe tous les détails. La réaction de Pénina, la réaction du sacrificateur Élie, c'est pas tellement merveilleux. Donc une femme qui est écrasée par la douleur, elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas donner une descendance. C'est quand même pour l'époque, l'aspect oriental d'Israël, à l'époque, c'est très important à souligner, c'est que c'était une honte. Et elle ne le supporte plus. Alors Elkana fait tout pour la rendre heureuse, il fait tout pour essayer à lui faire passer ce chagrin, cette peine, cette douleur. Et cette femme, Anne, et je peux la comprendre, et vous la comprenez aussi, elle est inconsolable. D'autant plus que, je le répète, Pénina ne fait que mortifier le cœur un peu plus, alourdir le cœur d'Anne de par ses réactions, par ses paroles, de par sa manière de faire. Alors qu'est-ce que fait Anne? Anne ne va pas tomber dans la dépression. Anne ne va pas se laisser abrutir par des médicaments. Bref, j'actualise. Elle va pas se laisser, eh bien, entraîner vers le fond. Non, non. Elle sait qui est Dieu. Elle connaît l'Éternel. Elle connaît le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche le secours auprès de Dieu. Ça, c'est la bonne réaction. Parce que si vous m'appelez en tant que pasteur, je vais vous aider, il n'y a pas de problème, je vais venir vous visiter, je suis disponible avec ma femme, on sera là, on répondra à vos questions, on priera pour vous et avec vous. Et à chaque fois, je vais vous encourager, quand je fais une visite, je fais comme ça, regardez ce que dit la parole, écoutez ce que dit Dieu, tournons nos regards vers le Seigneur, parce que moi-même en tant que pasteur, je suis limité. Votre frère, votre sœur est limité. Mais quand on se jette aux pieds de celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, qui est le rocher de notre salut, qui sauve, qui délivre, qui libère, qui appelle, qui écoute, alléluia, et dont la main n'est pas trop courte pour sauver, dont l'oreille n'est pas trop dure pour entendre, alors mes frères et sœurs, Anne, eh bien, l'a vécu, pourquoi pas vous, pourquoi pas moi, pourquoi pas nous, aujourd'hui encore, parce que la Bible me dit que Dieu ne change pas, on l'a souligné tout à l'heure, il n'y a en Dieu aucune ombre de variation, ni aucun changement dans sa personnalité. C'est de lui, c'est d'en haut que descendent, dit la Bible, toute grâce excellente et tout don parfait ce matin, pour qui veut bien le recevoir. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand vous lisez, eh bien, la fin de l'histoire, eh bien, Anne va faire monter cette prière et elle va dire « Mon cœur se réjouit en l'Éternel », chapitre 2. « Ma force a été relevée par l'Éternel. Alléluia. Je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. » Vous relirez toute la prière de Anne. Une femme comblée, une femme bénie, une femme qui reçoit la bénédiction de Dieu par la naissance de Samuel. Dieu a entendu. C'est cela la signification du nom de Samuel. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Samuel. Qui sait qu'il y a un enfant qui s'appelle Samuel? Personne? Oui. C'est qui les parents qui ont un Samuel? Levez la main. Voilà, Ginette, il y en a d'autres? Dieu a entendu. Amen. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Dieu entend et comprend parfaitement s'il l'a fait pour David, qui est acculé de toutes parts, à combien plus forte raison le Dieu de notre salut, en Jésus-Christ, va encore agir aujourd'hui. Il a entendu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, dit-elle. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et elle continue. C'est un Dieu qui sait tout. Et en définitive, cette prière de Anne, elle met en évidence ce que David lui-même met en évidence dans le psaume 18. Elle met en évidence ce que tout le Nouveau Testament, toutes les épîtres de Paul mettent en évidence par rapport à Christ, à l'Esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Comment puis-je, en tant que chrétien, m'habituer à cela? C'est impossible. Comment puis-je, en tant que chrétien, me sentir complètement, eh bien, écrasé? Non, le Seigneur est celui qui est un rocher, une haute retraite. Le Dieu qui est mon rocher. Justement, votre foi, on en parlera de la foi, hein, c'est prévu, vous le savez. Votre foi, est-ce qu'elle est en train de chanceler? C'est une bonne question ou pas? David va dire, parce que laissez-moi vous dire que quand il est acculé par ses ennemis, acculé par Saül, relisez 2 Samuel chapitre 22, etc. Vous allez voir, c'est vrai, vous allez le redécouvrir encore. C'est très compliqué. C'est pas facile pour David. Et il nous arrive d'être acculé. Mais nous avons un rocher. Mon rocher. Vous avez remarqué que David dit au verset 3, hein, je reprends les termes toujours du psaume 18, il dit « l'Éternel, mon rocher ». Il y a un adjectif possessif. Mon rocher. Il dit pas « l'Éternel, le rocher ». Ou encore, il y en a certains, là, il faut faire attention comment on conjugue les choses, les phrases, mais comment on les écrit, comment on lit. « l'Éternel, un rocher », ça veut dire qu'il y en a d'autres. Non, non. Le rocher, oui, il est le seul, mais je préfère dire mon rocher. Mon rocher. L'adjectif possessif témoigne d'une relation personnelle entre Dieu et David, qui savait que sa sécurité se trouvait qu'en l'Éternel. Dans le psaume, chapitre 9, versets 10 et 11, il dit, on retrouve à peu près les mêmes termes, « l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Le malheureux, mes frères et sœurs, n'est pas oublié. Il peut bénéficier de sa bienveillance particulière, il entend ses prières. Car quand le malheureux crie, qu'est-ce que fait l'Éternel? Je bouche mes oreilles. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend s'il est libre, hein, s'il est disponible. Non? Non, il entend, c'est sûr. C'est une affirmation. Il entend et il les délivre de toute leur détresse. Il répond à leurs besoins. Le malheureux n'est point oublié. L'espérance des misérables ne périt pas. Non, elle ne périt pas parce qu'on se sait malheureux. On a besoin de Dieu. Et David va dire, il est mon bouclier. Une question, êtes-vous en prise avec l'ennemi de vos âmes d'une manière plus forte que d'habitude? Ça peut arriver, non? Parfois, il nous laisse tranquille. Ça se passe bien. Puis à un moment donné, il revient à la charge. Parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il ne s'avoue jamais vaincu. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Et même si vous lisez les textes concernant les prophéties bibliques, en ce qui concerne le retour de Jésus en deux phases, l'enlèvement de l'Église sur les nuées du ciel. Ensuite, donc après une période de grande tribulation, 2 fois 3 années et demie, 7 ans, sur la terre où il n'y aura plus l'Église, plus le Saint-Esprit, plus Dieu agissant. Bien sûr que l'Antichrist va s'en donner à cœur joie. Ce qui est vécu aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qui se vivra à ce moment-là. Et à ce moment-là, le Seigneur va venir, là, c'est la seconde, dans la seconde venue de Jésus, c'est la deuxième phase, en posant ses pieds sur le mont des Oliviers pour délivrer Israël et pour délivrer les hommes. Et il va installer cette ère qu'on appelle l'ère du millénium. Et à ce moment-là, pendant cette ère de millénium, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, lui, va être enchaîné pendant 1000 ans. Il va être enlevé, lui et tous les esprits mauvais, enchaînés. Donc, si je comprends bien, à ce moment-là, pendant le millénium, alors, je ne suis pas plein de détails intéressants qui sont dans la parole de Dieu. Si je comprends bien une chose, si le diable est enchaîné, suivez bien mon raisonnement, si les esprits mauvais sont enchaînés pendant 1000 ans, 1000 ans de règne de Jésus sur la terre, normalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les hommes ne pêchent plus, ne sont plus tentés, ne commettent plus le mal, etc., etc. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est complètement faux. Vous relirez, si vous voulez, je peux vous donner les textes bibliques, prophétiques. On se rend compte que même pendant cette période, alors que le diable est enchaîné, que les esprits mauvais sont enchaînés pendant 1000 ans, même pendant cette période, il y a des hommes et des femmes qui continueront à pécher. La Bible dit que l'homme qui mourra à 100 ans sera jeune, ce qui veut dire que certains seront frappés. Parce que là, ça sera de suite. Mais mes frères et sœurs, en définitive, le diable, il n'a pas trop à faire. Parce que le problème, il est d'abord dans notre cœur. Il a juste à appuyer, il a juste à dresser certaines choses devant nous pour dire « voilà, c'est mieux, voilà ce que tu peux faire, voilà, il t'a laissé tomber ». Ne nous mettre dans le doute, ne nous conduire peut-être un petit peu dans l'erreur. Il n'a pas grand-chose à faire, c'est en nous. Nous sommes des pécheurs. Aïe, j'aurais pas dû venir ce matin. Nous sommes des pécheurs, certes sauvés par grâce en Jésus-Christ, mais c'est pas parce que je suis sauvé par grâce que tout est parfait chez moi. Non, faut me le dire, hein, si vous êtes parfait, manifestez-vous, que je vois à quoi ça ressemble, quelqu'un de parfait. Jésus est parfait. Le Saint-Esprit est parfait. Le Père est parfait. Dieu est parfait. Et il veut nous conduire de progrès en progrès afin que nos progrès soient évidents de tous. Il est notre bouclier quand on est aux prises de celui qui veut nous écarter, nous éloigner. Il va nous protéger des coups de l'adversaire. Alléluia. Voyez-vous, quand vous lisez le chapitre 15 du livre de la Genèse, il est question d'Abraham. Après sa lutte avec les rois, il a été troublé, il a été rempli de crainte. C'était pas facile. Et Dieu est venu et l'a rassuré. En lui montrant au travers d'une vision que lui, l'Éternel, était son bouclier, sa récompense. Vous lirez Genèse 15. Promesse de la naissance d'un fils à ce moment-là, du fils de la promesse, qui sera donc Isaac. Mes frères et sœurs, c'est en Christ seulement que nous pouvons connaître notre Père. À un moment donné, c'est un des disciples de Jésus, Philippe, vous trouvez ça dans Jean chapitre 14, il va lui dire « Montre-nous le Père ». Oh là 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 là. Et Jésus est obligé de dire à Philippe, mais enfin, depuis le temps que je suis avec vous, tu me poses cette question, tu me demandes cela, montre-nous le Père pour que nous croyions. Quelle patience. Mais je suis avec vous. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ah, Jésus, j'avais pas compris ça comme ça. Et pourtant, Jésus l'avait dit. C'est en Christ que nous pouvons connaître notre Père Céleste, que nous pouvons mieux connaître le Saint-Esprit, que nous pouvons mieux connaître en un seul mot, Dieu. Tout ce qui vient d'être dit par rapport au Dieu de David est réalisé, mes frères et sœurs, vous l'avez compris, en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un Dieu différent. Tous les termes du psaume 18 lui sont applicables. Par exemple, au verset 10, il abaissa les cieux et il descendit. C'est la venue de Christ qui est annoncée ici. Amen. Il est question de l'épaisse nuée sous les pieds du Seigneur. C'est l'image à la fois de sa gloire, de son onction spirituelle, et quelque part aussi, disons-le, du voile qui cache encore à nos yeux toute sa divinité. Bien qu'elle est visible à l'œil nu de par la création. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Identifions nos adversaires. J'ai parlé du fait que ce n'est pas les hommes, c'est le diable, c'est les esprits mauvais, c'est le péché, c'est tout ce qui s'oppose à la sainteté de Dieu. Il y a des mots au sens fort. Je vais reprendre du psaume 18. Violence. ennemis, les liens de la mort, les torrents de la destruction, être enserré, être épouvanté, mon adversaire puissant, des ennemis plus forts que moi, dit David à un moment donné, mes ténèbres, l'homme violent. Les adversaires de David sont à la fois des personnes, je l'ai dit, et des situations difficiles. En fait, il a connu en son temps ce que le croyant expérimente aujourd'hui dans une certaine mesure. Je l'ai dit, je le répète, il a un adversaire, le diable, qui est aussi l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi donc de Christ, du Père, du Saint-Esprit. Et il faut, nous aussi, lui échapper, échapper à l'emprise de la puissance de l'adversaire. Et cet esclavage, eh bien, quand il n'est pas vaincu en Christ, on le comprend, il est en mesure de conduire ceux qui sont pris dans cet esclavage à la perdition éternelle. Mais Jésus va contrecarrer tout cela. Et les expressions de David, elles sont en relation pour nous avec Jésus-Christ. Les liens du sépulcre, les filets de la mort, ces paroles ne sont pas sans rapport avec la croix et la mort de Jésus. Acte 2, 27, c'est Pierre qui va dire ceci, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » De qui parle Pierre? De lui? Non, il parle de Jésus. Il cite un verset de l'Écriture, de l'Ancien Testament, une prophétie concernant Jésus, non seulement dans le psaume 18, mais dans d'autres psaumes également. « J'ai invoqué Dieu, mon Dieu, dit David, et il a entendu ma voix. » Ces paroles ne sont pas sans rapport avec la résurrection aussi de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est revenu à la vie. C'est dans le plan de Dieu. Mais en même temps, il nous ramène à la vie. Nous sommes dans la vie. Et la délivrance, la victoire de David, eh bien, elle s'explique avec tout ce qui vient d'être déjà dit. Dieu est le Dieu qui est puissant pour ressusciter les morts. Et il nous en a donné la preuve en Christ. Il est l'auteur de la victoire, et je vais arriver à la fin. Il est le moyen de la victoire. Tu me donnes le bouclier de ton salut. D'ailleurs, l'apôtre Paul va reprendre l'image à son compte en citant le bouclier de la foi, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Christ est ce bouclier que la foi saisit. Êtes-vous derrière ce bouclier ou êtes-vous devant? Avez-vous choisi un autre bouclier que Christ? Alors vous êtes atteignable par les traits enflammés du malin, par tout ce qu'il peut faire entreprendre pour essayer à vous amener avec lui, loin de Dieu. Les moyens de la victoire sont là. L'Éternel est mon rocher, confession de la foi. J'ai invoqué l'Éternel, prière de la foi. On y reviendra encore et encore. Justement, ça introduit parfaitement le sujet de la foi, sur lequel je reviendrai. Ma droiture, la pureté de mes mains, ma pureté devant ses yeux, c'est la justice obtenue par la foi et la repentance devant Dieu en Jésus-Christ. Et j'y demeure. Pourtant, ces propos, je ne sais pas pour vous, mais moi, ils me surprennent quand je me souviens des erreurs et des péchés de David. David a péché? Oui. En définitive, David va mettre en évidence tout ce qui doit souligner notre propre cœur. La droiture, la pureté, la justice. Pourquoi? Parce que je mets ma foi en lui. Amen. Et quand David a péché, il est revenu vers Dieu parce qu'il savait qu'il pouvait revenir vers Dieu et Dieu allait le pardonner. Dieu allait le délivrer. Dieu allait le sortir de ce moment difficile. David a lavé ses mains dans l'innocence. Je dirais en quelque sorte que Dieu lui accorde du sang des victimes spirituelles après s'être rendu à l'autel sur lesquels, eh bien, ont été immolées ces victimes. Il ne s'est pas écarté des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Mes frères et sœurs, tout est là. Il s'agit de la loi de la foi et de la croix, la loi de Christ, le message de Christ, le message de la bonne nouvelle, le message de l'Évangile. Et nous ne devons jamais nous en écarter. C'est là que nous sommes, bien ancrés, attachés. David ne s'en est pas écarté. Il a été, ou elle a été, cette loi. à la base de tous ses retours vers Dieu. Elle a empêché l'ennemi de l'exterminer, de l'atteindre et de le tuer une bonne fois pour toutes. Jésus nous ramène à la vie. Et nous a ramenés à la vie, non pas pour que nous retournions vers la mort, mais que nous progressions dans cette vie. Et ce matin, la porte est ouverte. Les bras du Seigneur sont ouverts. Parce que les accents de la victoire sont soulignés profondément par la parole de Dieu. Ça abonde. Et quand on les cite, elles sont évocatrices. J'ai été retiré des grandes eaux. Être soustrait aux eaux du péché qui engloutit celui qui continue de s'y livrer. On a beau essayer à s'en sortir, on n'y arrive pas. On est emporté comme un tsunami. Être délivré de l'adversaire puissant, être affranchi de la puissance du diable et des conséquences de tout commerce avec lui. Je ne veux plus faire ce qu'il me demande de faire, je veux par contre faire ce que Dieu me demande de faire. Être débarrassé de la puissance adverse, le péché tourne le dos devant l'enfant de Dieu, amen, parce qu'on s'attache à Jésus, alors la victoire consiste à tourner le dos au péché. Être à même de dominer le pouvoir du péché. Vous allez me dire, oh, j'en suis pas capable. C'est sûr que si vous venez avec vos propres armes, avec vos propres forces, en disant, oh là là, j'ai un acquis derrière moi, il y a un recul, j'en ai de l'expérience. Oh là là, si vous saviez, je peux pas m'atteindre. Je connais tellement de choses de la Bible, tellement de choses de l'Évangile, tellement de choses de Dieu, pensez-vous. Ça servira à rien, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Notre force, c'est Dieu, notre force, c'est Christ, notre force, c'est l'Évangile, notre force, c'est la vérité. Elle est en Christ, elle est en Dieu, elle est dans sa parole. Et le sens spirituel des verbes utilisés par David, tel que poursuivre, détruire, anéantir, briser, exterminer, broyer, écraser, fouler, assujettir, ça veut dire tout simplement, tout cela, je l'évacue parce que je m'attache à Dieu. Alors je conclus. Le verset 39, on l'a lu. C'est être saint de force. Tu me saint de force. Se cindre. C'était important à l'époque. Parce qu'ils avaient des longues tuniques. Ils étaient en détente. La tunique... Mais dès qu'ils allaient se mettre en marche, dès qu'ils allaient se mettre au travail, ils s'attachaient la tunique pour pas qu'elle les gêne dans leur marche, dans leur travail. Je me ceins parce que je suis dans l'action. Je suis pas dans la passivité, dans l'agiveté. Je dis, allez pasteur, ce dimanche, vas-y, prêche, donne, envoie. Et moi je me fatigue, je m'épuise. Et je dis, je donne Seigneur, mais il n'y a aucun résultat, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de la parole de Dieu. Moi je prie pour vous, je prépare mes messages dans la prière, mais le problème c'est, est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'il y a une écoute, est-ce qu'il y a une obéissance? Est-ce que c'est Dieu qui domine, ou est-ce que c'est l'adversaire qui commence à regrignoter un peu ma vie? Eh oui, posons-nous les bonnes questions, mes frères et sœurs. Avec Dieu, je suis vainqueur, il faut que je me saigne. Être saint de force pour le combat contre le pouvoir du péché. Alors nous partageons avec David, mes frères et sœurs, la conviction qu'un Dieu qui accorde par grâce de telles bénédictions à ceux qui se confient en lui tous les jours est digne de recevoir en retour, je ne sais pas ce que vous en pensez, la louange, on l'a déjà louée. On va continuer, on va chanter encore, on va partager le repas du Seigneur. On va apporter notre offrande, mise à part pour Dieu, pour son œuvre, pour l'annonce de l'Évangile, à Groyer, dans ce secteur du Tarn qui a besoin du Seigneur. Alors reçois ma louange et ma reconnaissance. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Tu es le Dieu qui m'aime. Tu es le Dieu qui m'a sauvé en Christ. Et aujourd'hui, alors que j'ai fait une belle confession le jour de mon baptême, vous vous souvenez de votre baptême? Vous l'avez déjà oublié. Il y a peut-être des photos, allez-y dans votre album, vous allez vous voir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai changé? Peu importe. Mais vous allez dire, oui c'est vrai, je me suis engagé, ce jour-là il y avait ma famille, ce jour-là il y avait des amis, ce jour-là il y avait l'église, ce jour-là j'ai dit, oui, 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 je veux te suivre, oui, je veux te servir, oui, j'irai avec toi jusqu'au bout. Amen. Le problème c'est que quand on regarde le panorama de l'église, c'est que malheureusement, beaucoup sont tombés. Non pas au champ d'honneur, mais sont tombés sous les coups du diable parce qu'ils n'ont pas su garder dans leur cœur ce que David avait compris, ce que j'ai souligné ce matin. Très simplement, nous avons transposé dans la Nouvelle Alliance. Ça nous concerne. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, l'épée, la nudité, le péril, et j'en passe ? Les démons, le diable, le monde avec son état d'esprit ? Non, parce que je m'attache à Dieu, parce qu'il est le rocher de ma délivrance, parce qu'il est mon secours, il est mon appui, il est mon soutien, il est là par le Saint-Esprit, me renouvelant encore, si je le veux bien, bien sûr. Mes frères et sœurs, je vous ai livré ce qu'il y avait dans mon cœur. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon choix. C'est de m'attacher à toutes ces vérités. Parce que si je m'y attachais pas, je pourrais pas tenir devant vous. Dans un monde où il y a tant de pression, tant de tensions, tant de réactions méchantes, tant de violences qui rentrent parfois dans l'église. Mais ça, c'est pas un problème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et ensemble, nous verrons de grandes choses.